Bonjour Loïc Tassé.
Bonjour Bernard.
Alors, Paul Manafort, l'ex-grand ami de Donald Trump qui est condamné à 47 mois de prison.
C'était surtout l'organisateur de sa campagne politique, son premier organisateur. Alors oui, il est condamné à 47 mois de prison. Il était jugé pour avoir dissimulé 55 millions de dollars à l'impôt sur une trentaine de comptes à l'étranger et puis pour avoir trompé des banques pour obtenir des prêts. Les procureurs sont pas contents du tout, parce que eux demandaient de 19 à 25 ans de prison, donc ils trouvent que c'est très faible comme sentence, d'autant plus que Manafort a déjà passé 9 mois en prison préventive, donc il lui reste 38 mois à purger. Oui. Mais c'est pas fini pour Manafort, parce que la semaine prochaine, il va être jugé sur une autre affaire. Et cette fois, cette affaire le rapproche de la Russie, c'est qu'il a dissimulé ses activités de conseiller auprès de l'ancien président de l'Ukraine. Oui. Et ce président, on se souvient, était très, très proche de la Russie. Et là-dessus, il a plaidé coupable, sauf qu'il a menti aux enquêteurs. Donc, ça risque d'alourdir sa peine. Il pourrait avoir une peine soit concurrentielle, soit supplémentaire. On rappelle qu'il a 69 ans. Mais le fond du problème en ce moment dans l'opinion publique américaine, c'est pas ça. C'est que ce procès, pour le moment, est devenu le symbole de la lutte entre Donald Trump et Robert Mueller. Parce que Manafort, dans le procès où il vient d'être condamné pour 4 ans de prison, ben dans ce procès-là, si tu veux, c'est un procès qui était un sous-produit des enquêtes de Manafort. Donc, tout le monde dit « Ah ah !» Enfin, aux États-Unis, les républicains disent « Ah ah !» Vous voyez bien, Mueller, dans son enquête, n'avance pas si bien. Et les républicains présentent ça comme une défaite pour Mueller et une victoire pour Trump. Et puis, les démocrates, de leur côté, disent « Mais cette peine est très, très légère. » Mais ils soulignent aussi que cette histoire n'a rien à voir avec la Russie. Je voudrais surtout te dire que Trump est sorti là-dessus. Il vient de sortir. Okay. Et il vient de dire, écoutez, vous savez, c'est un très bon gars pour Manafort. C'est très, très dur pour lui. Et on se demande s'il ne va pas essayer de le gracier.
Mais j'allais dire, est-ce qu'il va lui donner le pardon présidentiel?
Ah oui, oui. Il le prend en pitié. Alors, on s'en va vers ça en ce moment.
Oui, bien en tout cas, jusqu'à maintenant, là, je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais tous ces procès... tu sais, il y a Cohen, l'ancien avocat, il y a Manafort, puis il y en a plein d'autres. Là. On peut-tu s'entendre pour dire que l'espèce de grosse révélation là, qui permettrait éventuellement de pincer Trump n'est pas encore survenue?
S'entend-tu
que c'est comme on est dans le cercle, puis on tourne autour? Mais franchement, on ne peut pas dire que Trump encore a été vraiment menacé.
Non, mais remarque que ce qui est très curieux, c'est que si les autres présidents avaient fait ce que Trump a fait, je pense qu'il serait en train d'avoir un impeachment. Il serait... Parce qu'il n'y a aucun président, quand tu regardes tout ce qu'il a fait, je parle de la Russie, je parle de, ses, de sa volonté de contourner la justice, etc.
Ouais.
Il n'y a personne qui en a fait autant que lui. Mais l'opinion publique, on en a parlé cette semaine, l'opinion publique n'est pas encore convaincue qu'il faut le renvoyer. Non. Et donc, effectivement, les démocrates travaillent à ça, tandis que les républicains, ben, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent pour soutenir Trump.
Mitiger les dommages. Et se demander si c'est le bonhomme pour la suite des choses.
Exactement.
Quand arrivera l'élection présidentielle. OK, parle-nous un petit peu des manifestations en Algérie, parce que c'est massif, là, massif, là.
C'est d'autant plus drôle qu'à Alger, figure-toi que la police a fait fermer le métro, les trains de banlieue, etc. Mais les Algériens sont... Ben oui, pour qu'il n'y ait pas de monde. Mais il paraît qu'il y a 1 million de personnes dans les rues. D'abord, Alger est une capitale populeuse. Mais en plus, on a organisé des navettes citoyennes pour que les gens puissent venir à la grande place, puissent venir manifester à Alger. Et en plus, aujourd'hui, c'est la journée internationale des femmes. Donc, les femmes sont allées encore plus nombreuses manifester dans les rues. Tout se passe très bien pour le moment. Mais, si tu veux, les autorités ne savent pas trop quoi faire avec ça parce que le mouvement prend de l'ampleur. Les partis d'opposition se sont réunis. Aucun ne semble en mesure de prendre le pouvoir. Mais comme je te le disais, ils veulent vraiment, ils veulent remettre des élections. Ils voudraient qu'un conseil de sages soit nommé et que ces élections soient un peu différées. Pas sûr que ça se produise. Je ne sais pas combien de temps tout ça va durer. Et encore une fois, le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas combien de temps Bouteflika lui-même va durer. Mais pour le moment, ce sont ces trois frères qui semblent avoir accaparé, usurpé, devrait-on dire, le pouvoir à la place de Bouteflika. Et cette situation continue.
Les trois frères, Il a trois frères. Du président.
Oui,
c'est ça. Mais c'est bête, hein, parce que quand tu y penses, c'était une véritable démocratie avec toute cette mobilisation populaire à laquelle on assiste. C'est bien certain que l'opposition gagnerait les élections.
C'est certain. C'est certain. Mais les élections sont achetées, elles ne sont de véritables élections, donc c'est effectivement, ça pose
c'est
un problème.
C'est ça. C'est le paradoxe, c'est pour faire, comment dire, pour avoir un nouveau dirigeant à la tête de l'Algérie, il faut que Bouteflika ne se représente pas. C'est comme ça que va arriver le changement. C'est pas par l'élection, c'est par l'opposition à sa nouvelle candidature.
Oui, mais
tu comprends le paradoxe?
Absolument. Et il faut qu'il y ait un candidat, par contre, qui soit un vrai candidat, qui soit identifié ni à l'armée, ni aux vieux révolutionnaires, à la nomenclatura qui est là. Et ça, on ne le voit pas encore, ce candidat-là. C'est ça le problème aussi.
Très bien. Mon cher Loïc Tassé, ça a été un très grand plaisir de travailler avec
toi. Moi aussi, Bernard. Écoute,
vraiment.
J'aimerais... Écoute, c'est la dernière chronique politique comme telle à ton émission. Donc, moi, j'aimerais remercier tous les auditeurs qui m'ont fait l'honneur de me suivre depuis 2011, vraiment du fond du cœur. D'abord, j'ai été chroniqueur aux superpuissances et puis, depuis plus de 3 ans, chroniqueur international tous les jours. Et c'est un bonheur, vraiment, d'être chroniqueur. Je rencontrais beaucoup d'auditeurs dans la rue, etc. Je conversais avec eux. J'ai beaucoup appris. J'aimerais aussi, si tu le permets, remercier la fantastique équipe qu'on a, que les gens ne voient pas. C'est un peu ingrat comme travail, mais une équipe qui nous épaule, je pense, d'une manière extraordinaire, qui travaille super fort, super bien. Je pense au cœur à Alexandra, Maryse et Larry, mais il y en a d'autres aussi qui viennent. Je pense à Valérie, je pense à François et d'autres qui sont là occasionnellement. Et j'aimerais leur dire merci, vraiment aussi. C'est toujours un plaisir de venir travailler au studio et on sait qu'ils sont là. C'est notre filet de sécurité, d'une certaine manière. Et puis Bernard, écoute, moi, ça m'a vraiment fait plaisir aussi de travailler avec toi.
Pareillement,
je pense qu'on a eu de très beaux moments.
Absolument.
Depuis.
Et on se reparlera de façon plus occasionnelle.
C'est ça.
On a décidé de couvrir l'international d'une façon un petit peu différente. Alors, on fera appel à tes services à nouveau à l'avenir, mon cher Loïc. Ça a été un très grand plaisir. Tu es un grand professionnel, un homme rigoureux avec lequel on avait beaucoup de plaisir à travailler. Alors, on se reparle dans les prochains mois.
Ce sera d'une façon différente.
On couvrira ça d'une façon différente. Merci Loïc Tassé.
Salut Bernard.
Après la pause... On...